Ardigan. Ardigan présente Cthulhu, le mythe. H.P. Lovecraft. Lu par Nicolas Planchet. Celui qui chuchotait dans le noir. 1. Rappelez-vous bien qu'en fin de compte, je n'assistais à rien de vraiment horrifique. Mettre sur le seul compte d'un choc mental la conclusion à laquelle je parvins, cette ultime révélation qui me fit fuir la ferme isolée d'Aclay pour traverser dans une automobile empruntée, en pleine nuit, les sauvages collines du Vermont, reviendrait à ne pas tenir compte des faits les plus concrets auxquels j'ai dû faire face lors de ma dernière expérience. En dépit des choses bouleversantes que j'ai vues et entendues, en dépit de la marque indéniablement ineffaçable qu'elles ont laissée sur moi, je ne peux, même aujourd'hui, démontrer si mon hideuse hypothèse est vraie ou fausse. Après tout, la disparition d'Aclay ne prouve rien. On n'a rien découvert d'insolite chez lui, malgré les impacts de balles à l'extérieur et à l'intérieur de sa demeure. On l'aurait cru sorti pour une simple promenade dans la montagne, et jamais revenu. Il n'y avait même pas l'indice révélant la présence d'un invité, ni aucune trace de ces abominables cylindres et machines entreposées dans son bureau. Qu'il ait eu atrocement peur des nombreuses collines verdoyantes et du ruissellement sans fin des cours d'eau de sa région natale n'est pas davantage significatif, car des milliers de personnes éprouvent-elles aussi ce genre de phobie maladive. En outre, son excentricité pourrait suffire à expliquer ses actions et perceptions étranges vers la fin. En ce qui me concerne, l'affaire débuta avec les inondations historiques d'un niveau jamais atteint que connut le Vermont le 3 novembre 1927. J'étais alors, comme je le suis encore à présent, enseignant en littérature à l'université Miskatonic d'Arkham, dans le Massachusetts, ainsi que fervent amateur du folklore de la Nouvelle-Angleterre. Peu de temps après cette catastrophe, parmi les divers articles de presse relatant la souffrance de ceux qui avaient tout perdu et les secours mis en œuvre, apparurent de curieux récits faisant état de choses qu'on aurait vues dériver sur certaines rivières en crue. À tel point que beaucoup de mes amis se lancèrent dans des débats insolites et firent appel à mes connaissances pour les éclairer sur le sujet. Flatté qu'on prenne autant au sérieux mes études sur le folklore local, je m'efforçais d'atténuer la portée de ces vagues contes délirants qui me paraissaient sans conteste issus de vieilles superstitions rurales. Et cela m'amusa de constater que plusieurs personnes pourtant éduquées tenaient à discerner sous les rumeurs un fond de vérité obscure, distordue. Ces histoires sur lesquelles on attira mon attention provenaient essentiellement de coupures de presse. Toutefois, l'une d'elles avait pour origine un récit oral rapporté à un de mes amis dans une lettre de sa mère, habitante de Hardwich, dans le Vermont. Le genre de choses décrites était en gros le même chaque fois, mais trois cours d'eau distincts semblaient concernés. La rivière Winooski, non loin de Montpellier, et celle de l'ouest dans le comté de Windham, en amont de Newfane, et la Passumpsic, dans le comté de Caledonia, au-dessus de Lindonville. Bien sûr, beaucoup d'articles isolés mentionnaient d'autres cours d'eau secondaires, mais après analyse, tout semblait se réduire à ces trois rivières principales. Les habitants du cru racontaient immanquablement avoir aperçu des corps flottants très bizarres et perturbants au milieu du courant qui se déversait depuis les hauteurs de collines peu fréquentées. On tendait avec insistance à relier ces observations à un cycle de légendes occultes à moitié oublié que les vieilles gens ressuscitèrent pour l'occasion. Les témoins croyaient avoir vu des créatures comme ils n'en avaient jamais observé auparavant. Bien sûr, en cette période tragique, les cadavres entraînés par les cours d'eau ne manquaient pas, mais ceux qui décrivaient les formes étranges en question avaient la certitude qu'elles n'étaient pas humaines, malgré quelques ressemblances superficielles comme la taille et la silhouette générale. Il ne s'agissait pas non plus, assurait-il, d'un animal connu dans le Vermont. Ces êtres rosâtres mesuraient environ 1,50 m. Leur corps, ceux des crustacés, comportait une paire de grandes nageoires dorsales ou d'ailes membraneuses et des séries de membres articulés. Une espèce d'ellipsoïde torsadé recouvert d'une multitude de minuscules antennes tenait lieu de tête. Il était remarquable de voir à quel point ces témoignages, pourtant issus de sources différentes, concordaient. Toutefois, on s'en étonnait moins en se rappelant les images frappantes engendrées par les vieux contes qui, fut un temps, circulaient par toute cette région montagneuse. Ils avaient fort bien pu fausser la perception des spectateurs. Et j'en arrivais à la conclusion que ces personnes, à chaque fois de simples paysans mal dégrossis, avaient aperçu dans les eaux tumultueuses les corps gonflés et meurtris d'hommes ou d'animaux de ferme, et avaient laissé leur folklore à moitié oublié munir d'attributs fantastiques les pitoyables dépouilles. Ces vagues et brumeuses légendes des plus insolites, largement inconnues de la génération actuelle, reflétaient de toute évidence l'influence de contes indiens encore plus anciens. Je les connaissais bien, même si je n'avais jamais mis les pieds dans le Vermont, grâce à la monographie rarissime d'Eli Davenport, qui rassemblait des récits recueillis hors allemand avant 1839 auprès de vieillards de cet état. Récits qui, d'ailleurs, coïncidaient pour l'essentiel avec des histoires que j'avais moi-même entendues de la bouche d'antiques paysans dans les montagnes du New Hampshire. Pour résumer, ces légendes suggéraient la présence dans les collines les plus reculées de la région d'une espèce cachée d'êtres monstrueux hantant les forêts profondes des plus hauts pics et les plus obscures vallées où ruisselaient des torrents surgis de sources inconnues. On ne voyait que rarement ces créatures, mais ceux qui s'étaient aventurés plus loin que d'ordinaire sur les pentes de certains monts ou au fond de certaines gorges encaissées que même les loups évitaient, déclaraient avoir vu des traces prouvant leur existence. On signalait d'étranges empreintes de pattes, ou plutôt de griffes sur les berges des ruisseaux ou des portions de sol nu. D'étranges cercles de pierre s'élevaient, l'herbe aplatie autour d'eux, et leurs monolithes ne semblaient pas avoir été placés là, ni entièrement façonnés, par des forces naturelles. On trouvait aussi à flanc de montagne certaines cavernes insondables, dont des rochers bloquaient l'accès d'une manière qu'on ne pouvait qualifier d'accidentelle. On observait une concentration d'empreintes bizarres menant vers ces ouvertures ou s'en écartant, si toutefois on pouvait estimer à coup sûr la direction de leur trajet. Pique tout. En de très rares occasions, les explorateurs les plus hardis avaient aperçu des êtres inouïs dans la pénombre des vallées les plus isolées et au cœur des forêts denses poussant sur des pentes quasi verticales, situées au-dessus des limites d'une ascension normale. Tout cela n'eût pas été très perturbant si les récits isolés concernant les apparitions de ces choses ne s'étaient si parfaitement accordés. Le fait était que presque toutes les rumeurs présentaient plusieurs points communs. Ces créatures avaient l'apparence de crabes énormes, d'un rouge clair, avec plusieurs paires de pattes et deux grandes ailes de chauve-souris au milieu du dos. Parfois, elles marchaient sur l'ensemble de leurs membres, parfois sur la seule paire arrière, utilisant le reste pour transporter de gros fardeaux de nature indéterminée. En une occasion, on en avait aperçu une troupe fournie dont un petit groupe s'était détaché pour longer à trois de front, selon une formation de toute évidence organisée, un cours d'eau forestier peu profond. Une autre fois, on avait vu un spécimen voler. Il s'était lancé du haut d'une colline isolée et dépourvue de végétation et avait disparu dans le ciel nocturne après s'être silhouetté un instant sur l'écran de la pleine lune. Ces créatures, dans leur ensemble, paraissaient se contenter de laisser l'humanité tranquille, même si, de temps en temps, on leur attribuait la disparition de personnes exagérément aventureuses. Surtout celles qui avaient bâti leur demeure trop près de certaines vallées ou trop en altitude sur certaines collines. On en vint à estimer dangereux de s'installer en certains lieux, et cette opinion perdura longtemps après qu'on eut oublié les histoires à son origine. Les gens levaient les yeux sur tel ou tel versant escarpé des monts proches et frissonnaient, sans pourtant se rappeler combien d'habitants avaient été perdus là-haut, ni combien de fermes avaient été réduites en cendres sur les flancs de ces sinistres sentinelles verdoyantes. Mais si l'on s'en tenait aux plus anciennes légendes, les êtres ne s'en prenaient, semblait-il, qu'aux personnes qui s'aventuraient sur leur territoire. Par la suite, on relata pourtant qu'ils s'intéressaient aux humains, qu'ils s'efforçaient d'établir des avant-postes secrets dans le monde des hommes. On racontait que, certains matins, d'étranges empreintes de griffes avaient été relevées autour des fenêtres de ferme, et des disparitions constatées hors des zones notoirement hantées par cette forme de vie. En outre, circulaient des récits à propos de voix bourdonnantes, singeant le langage articulé, qui faisaient des propositions étonnantes aux voyageurs solitaires sur les routes et sentiers traversant la vaste forêt. Il était aussi question d'enfants épouvantés par ce qu'ils avaient vu ou entendu, là où la forêt primitive serrait de trop près leur jardin. Les légendes les plus récentes, qui avaient précédé le déclin de la superstition et l'abandon complet des régions redoutées, parlaient avec effroi de changements de comportement des plus déplaisants, intervenus chez certains ermites ou fermiers isolés. On les évitait, et on murmurait que ces mortels avaient vendu leur âme aux mystérieuses créatures. Dans l'un des comtés du Nord-Est, vers les années 1800, il semble qu'il fût à la mode d'accuser les excentriques et les reclus impopulaires d'être les alliés ou les ambassadeurs des êtres détestables. Quant à ce qu'ils étaient réellement, ces monstres, bien sûr, les explications variaient. On les désignait d'ordinaire par la formule « ceux-là » ou « les anciens », mais d'autres termes furent utilisés de manière plus locale et transitoire. Il se peut que la majeure partie des puritains les ait considérés sans hésitation comme des familiers du diable et ait fait d'eux la base de spéculations théologiques apeurées. Ceux dont les traditions comportaient des références celtiques, notamment les habitants du New Hampshire d'origine écossaise ou irlandaise et leurs cousins, installés dans le Vermont grâce aux concessions coloniales obtenues sous le gouverneur Wentworth, les reliaient vaguement aux fées maléfiques et aux petits peuples des marais et des champs clos, et se protégeaient d'eux par des bribes d'incantations transmises depuis de nombreuses générations. Mais c'était des Indiens que provenaient les théories les plus extraordinaires. Même si les légendes différaient quelque peu selon les tribus, elles s'accordaient néanmoins sur certains points essentiels. Toutes admettaient que les créatures ne venaient pas de notre terre. Les mythes des Penacooks, les plus détaillés et imagés, nous apprennent que les Ailés viennent de la grande ourse dans le ciel, et qu'ils ont creusé des mines dans les collines de la terre, d'où ils extraient une sorte de pierre qu'ils ne peuvent obtenir nulle part ailleurs. Ils ne vivent pas sur notre planète, assurent les légendes, mais y maintiennent des avant-postes d'où ils s'envolent en transportant d'énormes cargaisons de minerais jusqu'à leurs propres astres nordiques. Ils ne s'en prennent qu'à ceux qui les approchent de trop près ou les épient. Les animaux les évitent par aversion instinctive, non parce qu'ils se font chasser. Les êtres ne peuvent rien consommer de notre planète, mais y apportent leurs propres provisions venues des étoiles. Il ne faut pas fréquenter leur voisinage. Il est arrivé que de jeunes chasseurs partis dans leurs collines ne reviennent pas. Il est déconseillé également d'écouter ce qu'ils murmurent la nuit dans les forêts, de leur voix semblable à un bourdonnement d'abeilles qui s'efforcent d'imiter le parler humain. Ils connaissent la langue de toutes sortes de peuples, Penacooks, Hurons, ceux des cinq nations, mais ne paraissent pas avoir besoin d'un langage articulé pour communiquer entre eux. Ils s'expriment grâce à leur tête qui change de couleur en fonction des messages qu'ils veulent se transmettre. Tous ces contes, évidemment, ceux des Blancs comme ceux des Indiens, s'éteignirent au cours du XIXe siècle, hormis de rares résurgences ataviques. Les habitants du Vermont s'installèrent et, une fois leurs chemins et demeures établis selon des plans bien arrêtés, ils se souvèrent de moins en moins des craintes et des répugnances qui avaient donné forme à ces plans, voire qu'il y eut au départ crainte et répugnance. La plupart des gens savaient simplement que certaines régions montagneuses étaient considérées comme hautement insalubres, peu fertile et généralement funeste à ceux qui s'y installaient. Plus on s'en tenait éloigné, mieux cela valait. Peu à peu, l'usage et l'intérêt économique implantèrent si bien dans les esprits que seuls les lieux approuvés étaient bénéfiques pour les gens et les affaires, qu'on ne vit plus aucune raison de s'établir en dehors de ces zones. Les monts maudits se retrouvèrent évités de manière machinale et non plus délibérée. À part lors de rares moments d'inquiétude localisée, seules les grands-mères friandes de mystères et les nonagénaires nostalgiques parlaient encore à mi-voix des créatures hantant ces collines. Mais même ces récits murmurés admettaient qu'il n'y avait plus grand-chose à craindre d'elles à présent qu'elles s'étaient accoutumées aux habitations humaines et que tous se tenaient bien à l'écart de leur domaine. Tout cela, je le savais de longue date, grâce à mes lectures et à certains récits populaires recueillis dans le New Hampshire. Voilà pourquoi, lorsque les rumeurs entourant l'inondation étaient apparues, j'avais aisément deviné le contexte imaginaire qui les avait suscités. Je me donnais beaucoup de peine pour expliquer la chose à mes amis, et m'amusais autant en constatant que plusieurs amoureux du débat persistaient à voir un possible fond de vérité dans ces histoires. Les personnes en question faisaient remarquer que les légendes les plus anciennes présentaient entre elles une étonnante cohérence et une certaine uniformité. Le simple fait que les collines du Vermont soient restées pour l'essentiel inexplorées rendait peu raisonnable tout dogmatisme quant à ce qui pouvait ou non hanter ces lieux. Je ne pouvais pas non plus réduire mes contradicteurs au silence en leur assurant que ces mythes correspondaient à un schéma mental bien connu commun à toute l'humanité, déterminé par les premières phases d'explication du monde par le biais de l'imaginaire, et qui produisait toujours le même genre de représentations extravagantes. Il ne servait à rien de leur démontrer que les légendes du Vermont ne différaient guère des mythes universels de personnification de la nature qui avaient rempli le monde de l'Antiquité, de faunes, de dryades et de satyres, suggéraient l'existence de Calicanzaros grecs et peupler les coins sauvages du Pays de Galles et d'Irlande de sombres rumeurs concernant de bizarres et sinistres petits êtres cachés dans des cavernes et des terriers. Il s'avéra tout aussi inutile de leur faire remarquer les croyances encore plus étonnamment proches des peuples montagneux du Népal quant à l'existence de ce Migo redouté ou abominable homme des neiges, ce monstre hideux se tapissant parmi les glaces et sommets rocheux de l'Himalaya. Quand j'avançais cet argument, mes contradicteurs le retournèrent contre moi, en proclamant que cela conférait au contraire une réelle authenticité aux anciens récits, et confirmait l'existence sur Terre d'une ancienne et étrange espèce, conduite à se cacher après l'avènement et la domination de l'humanité, et dont un nombre réduit d'individus avait fort bien pu survivre jusqu'à un passé récent, voire jusqu'à notre époque actuelle. Plus je riais de ces élucubrations, plus ces amis obstinés s'y accrochaient, ajoutant que, même si on ne tenait pas compte des légendes traditionnelles, les histoires de ces dernières semaines étaient trop claires et cohérentes, détaillées, racontées d'une manière trop saine et prosaïque pour qu'on ne les prenne pas au sérieux. Deux ou trois extrémistes, dans leur fanatisme, allèrent jusqu'à insinuer qu'une interprétation possible des anciens mythes indiens permettait d'attribuer une origine extraterrestre à ces êtres cryptiques. Ils citèrent les ouvrages extravagants de Charles Fort pour soutenir leurs hypothèses selon lesquelles des voyageurs venus d'autres mondes, de l'espace interstellaire, visitaient souvent la Terre. Toutefois, la plupart de mes opposants dans ce débat se révélèrent n'être que des individus portés au romantisme, qui tenaient à transposer dans la vie réelle les contes fantastiques du petit peuple, rendus populaires par les superbes récits d'horreur écrits par Arthur Machen. 2. Rien de plus normal dans ces circonstances que cet intéressant débat ait finalement été publié sous forme de lettres adressées à l'Arkham Advertiser. Certaines d'entre elles furent reprises dans la presse des régions du Vermont où étaient nés les récits provoqués par les crues. Le Rutland Herald consacra une demi-page à des extraits de lettres reflétant les différents points de vue. Et le Brattleboro Reformer publia l'intégralité d'une de mes longues synthèses historiques et mythologiques accompagnée de quelques commentaires dans la très sérieuse rubrique « La plume vagabonde ». Ces derniers soutenaient et approuvaient mes conclusions sceptiques. Au printemps de 1928, j'étais presque devenu une célébrité dans le Vermont, bien que je n'y sois jamais allé. Et c'est alors que me parvinrent les lettres dérangeantes de Henry Hakley, qui me firent une si forte impression que pour la première et la dernière fois de ma vie, je me décidai à voyager jusqu'à cette région fascinante, peuplée de précipices verdoyants et de murmurants ruisseaux forestiers. J'ai recueilli l'essentiel de ce que je sais au sujet de Henry Wentworth Hakley après mon aventure dans sa ferme isolée, en correspondant avec ses voisins et son fils unique installé en Californie. J'ai ainsi découvert qu'il était le dernier représentant, dans sa région d'origine, d'une longue et localement renommée lignée de juristes, d'administrateurs et de propriétaires terriens. Il n'avait toutefois pas consacré ses dons familiaux au monde des affaires, mais au pur savoir, de sorte qu'il avait étudié avec succès les mathématiques, l'astronomie, la biologie, l'anthropologie et les légendes populaires à l'université du Vermont. Je n'avais encore jamais entendu parler de lui, et il ne me fournit guère de détails biographiques dans ses lettres, mais, d'emblée, je vis en lui un homme de caractère, d'éducation et d'intelligence, bien que reclus et peu doué en relations sociales. En dépit de la nature incroyable de ses allégations, je ne pus m'empêcher de prendre davantage au sérieux Hakley que tous mes autres contradicteurs. D'une part, parce qu'il habitait tout près des phénomènes visibles et tangibles dont il était question, et qu'il expliquait néanmoins par des hypothèses absolument grotesques. Et d'autre part, parce qu'il était disposé, de manière surprenante, à laisser ses conclusions en suspens, comme un véritable homme de science. Il ne se basait pas sur des intuitions personnelles pour avancer dans ses recherches, mais ne se laissait guider que par les indices qui lui paraissaient solides. Bien sûr, je l'estimais dans l'erreur, mais lui accordais qu'il se trompait sans doute de manière raisonnée. À aucun moment je ne fus d'accord avec certaines de ses relations qui attribuaient ses idées à la démence ou à sa phobie des vertes collines solitaires autour de sa demeure. Je voyais bien que cet homme était sensé et pensais que ce qu'il relatait provenait à l'évidence d'une cause étrange qui méritait une enquête, même si cette cause ne pouvait avoir grand-chose de commun avec les suppositions fantastiques qu'il avançait. Par la suite, il m'adressa des preuves matérielles qui donnèrent au problème des fondations insolites, bizarres, jusqu'à l'incongruité. Je ne puis que transcrire dans son intégralité, autant que possible, la longue lettre par laquelle il se présenta à moi, et qui constitua une étape décisive dans mon évolution intellectuelle. Je n'ai plus le document en ma possession, mais ma mémoire conserve presque mot pour mot son message capital. Je tiens de nouveau à me porter garant de la santé mentale de son auteur. En voici le texte, que je lus dans l'écriture serrée, le gribouillis d'aspect archaïque d'un individu qui, à l'évidence, n'avait guère eu l'occasion de se frotter au monde durant sa tranquille vie d'érudit. Albert N. Wilmart, 118 Salton Street, Arkham, Massachusetts. RFD2, Townshend, Widham Co., Vermont. Le 5 mai 1928. Mon cher monsieur, c'est avec le plus vif intérêt que j'ai pris connaissance de la copie dans le Brattleboro Reformer du 23 avril de cette année de votre communication concernant les rapports récents sur des cadavres étranges vus flottant dans nos torrents en crue à l'automne dernier et les légendes locales qu'ils illustraient si bien. Il est facile de comprendre pourquoi un étranger comme vous a pris les positions qui sont les vôtres, et même pourquoi la plume vagabonde les approuve. Telle est l'attitude généralement adoptée par les personnes cultivées, dans le Vermont ou ailleurs. Telle était la mienne dans ma jeunesse. J'ai aujourd'hui 57 ans. Avant que mes recherches, d'une manière générale, ainsi que celles menées à partir de l'ouvrage de Davenport, m'ai conduit à me livrer à quelques explorations des régions d'ordinaire non visitées, des monts alentours. J'ai été amené à entreprendre ces recherches en raison des étranges récits que j'ai autrefois entendus de la bouche de fermiers âgés et fort ignorants. Mais à présent, je regrette de n'avoir pas complètement évité le sujet. Je peux, sans vouloir me vanter, me prétendre versé en matière d'anthropologie et de légende populaire. J'ai suivi de nombreux cours dans ces domaines à l'université, et je connais bien les travaux des meilleurs experts tels Tylor, Lubbock, Fraser, Contrefage, Murray, Osborne, Case, Boole, G. Elliott Smith, etc. Cette idée de conte à propos de races cryptiques datant de l'aube de l'humanité n'est pas nouvelle pour moi. J'ai lu des copies de vos lettres ainsi que celles de vos partisans dans le Rutland Herald et pense avoir une bonne idée de l'état actuel de la controverse. Ce que je souhaite vous dire à présent est que j'en ai peur. Vos adversaires sont plus proches de la vérité que vous, même si tous les arguments raisonnables paraissent appuyer votre thèse. Ils sont plus proches de la vérité qu'ils n'en ont eux-mêmes conscience, car, bien sûr, ils s'appuient seulement sur des théories et ignorent ce que je sais. Si j'étais aussi peu familier du sujet qu'ils le sont, je défendrais mon point de vue avec la même assurance qu'eux et serais entièrement d'accord avec vous. Vous pouvez constater que j'ai beaucoup de mal à entrer dans le vif du sujet, sans doute parce que j'éprouve une très réelle appréhension à le faire. Mais l'essentiel, en l'occurrence, est que j'ai en ma possession des preuves montrant que des êtres monstrueux vivent effectivement dans les bois, sur ces pentes jamais fréquentées. Je n'ai pas vu les créatures flottant dans les cours d'eau comme les articles l'ont rapporté, mais j'en ai aperçu d'autres semblables, en des circonstances que je crains de vous révéler. J'ai observé leurs empreintes et les ai vues il y a peu près de chez moi. J'habite le vieux domaine à Clay, au sud de la commune de Townshend, sur le flanc du Mont Noir, à plus près que je n'ose même vous l'avouer aujourd'hui. J'ai entendu à certains endroits, dans les bois, des voix que je n'essaierai même pas de vous décrire sur papier. En un lieu particulier, je les ai surpris si souvent que j'ai apporté là un photographe muni d'un dictaphone et d'un cylindre de cire vierge. Je tâcherai de vous envoyer l'enregistrement que j'ai ainsi obtenu. Je l'ai fait écouter à certains anciens du village, et l'une de ces voix les a laissés presque paralysés de peur, à cause de sa similitude avec une autre, ce fameux bourdonnement perçu au fond des forêts mentionné par Davenport, dont leur grand-mère leur avait parlé et qu'elles avaient imité devant eux. Je sais bien ce que la plupart des gens pensent d'un homme prétendant entendre des voix. Mais avant de tirer vos conclusions, il vous faudra écouter ce document sonore et demander ce qu'ils en pensent à certains des vieux paysans d'ici. Si vous parvenez à trouver une explication naturelle à ces voix, parfait. Mais je pense qu'elles sont l'indice de quelque chose d'autre. Comme vous savez, ex nihilo nihil fit. À présent, j'en viens à l'objet de ma lettre, qui n'est pas d'entamer un débat avec vous, mais de vous fournir certaines informations. Et selon moi, elles ne pourront qu'intéresser vivement quelqu'un présentant vos inclinations. Restez discret à ce sujet. Pour la sphère publique, je partage votre opinion, car plusieurs éléments me laissent à penser qu'il vaut mieux que les gens n'en apprennent pas trop sur ces créatures. Mes propres recherches s'effectuent désormais dans le plus grand secret. Et j'évite de raconter quoi que ce soit qui risquerait d'attirer l'attention de badauds et d'amener des visiteurs dans les endroits que j'ai moi-même explorés. Car il est vrai, affreusement vrai, que des créatures non humaines nous observent en permanence. Elles disposent en outre parmi nous d'espions qui les informent. J'ai obtenu l'essentiel de ces révélations de la bouche même d'un malheureux qui, à supposer qu'il ait toute sa tête, ce dont je suis persuadé, jouait ce rôle d'acolyte. Par la suite, il s'est suicidé, mais j'ai de bonnes raisons de penser que d'autres l'ont remplacé. Ces êtres viennent d'une autre planète. Ils sont capables de survivre dans l'espace interstellaire et de le traverser en volant. Leurs ailes, grossières mais puissantes, ont suffisamment de portance dans l'éther. Cependant, elles sont très difficiles à manœuvrer et ne présentent guère d'utilité sur Terre. Je vous en dirai davantage par la suite si vous ne me considérez pas d'emblée comme un dément. Ils viennent dans cette région pour extraire des métaux dont les filons s'enfoncent loin sous nos montagnes, et je crois savoir d'où ils sont partis. Ils ne font pas de mal aux humains si on les laisse tranquilles. Mais nul ne peut prévoir les conséquences d'une curiosité excessive de notre part. Bien sûr, une solide troupe armée pourrait éradiquer leur colonie minière, et c'est ce qui les inquiète d'ailleurs. Mais si cela se produisait, un nombre inimaginable de ces monstres arriverait des confins de l'espace. Ils pourraient sans peine conquérir la Terre. Ils ne l'ont pas tenté jusqu'à présent parce qu'ils n'en ressentent pas le besoin. Ils préféreraient conserver le statu quo afin de s'épargner des ennuis. Pourtant, je crois qu'ils veulent se débarrasser de moi à cause de ce que j'ai découvert. J'ai trouvé dans les bois, à l'est d'ici, sur le mont Rand, une grande pierre noire gravée de nombreux hiéroglyphes à moitié effacés. C'est après que je l'ai rapporté chez moi que tout a changé. S'ils pensent que mes soupçons se précisent par trop, ils me tueront ou bien m'arracheront à notre planète pour m'emmener là d'où ils viennent. Ils aiment assez, de temps en temps, s'emparer de savants afin de se tenir informés de l'état de la pensée humaine. Cela m'amène à la seconde raison qui motive cette lettre. Je vous prie, vous implore d'étouffer le débat en cours au lieu de lui donner davantage de retentissement. Il faut que les gens se tiennent à l'écart de ces collines. Dans ce but, il importe de ne plus stimuler leur curiosité. Dieu sait qu'il y a déjà assez de dangers avec les promeneurs et les agents immobiliers qui envahissent le Vermont, à la tête de hordes d'estivants, afin d'investir les lieux les plus sauvages et recouvrir les collines de piètres maisons de vacances. Je serais heureux d'entretenir une correspondance avec vous, et essaierai de vous envoyer par express, si vous le souhaitez, l'enregistrement dont je vous ai parlé ainsi que la pierre noire. Elle est si usée qu'on distingue mal les hiéroglyphes sur les photographies. J'écris « essaierai » parce que j'ai bien l'impression que ces créatures gagnent de l'influence par ici. Je connais un individu, sournois et déplaisant, du nom de Brown, habitant une ferme proche du village, que je crois être leur espion. Il s'efforce de me couper peu à peu de notre monde parce que j'en sais trop sur le leur. Il dispose de moyens étonnants pour connaître mes actions. Il n'est même pas certain que cette lettre vous parviendra. Si la situation empire, je pense qu'il va me falloir abandonner la région pour aller vivre avec mon fils à San Diego, en Californie. Mais il n'est pas facile de quitter l'endroit qui vous a vu naître et où votre famille a vécu pendant 6 générations. Et puis j'aurai de sérieux scrupules à vendre ma maison à qui que ce soit à présent que j'ai attiré sur elle l'attention de ces créatures. Il semble qu'elles aient l'intention de récupérer la pierre noire et de détruire l'enregistrement. Mais je les en empêcherai si je le puis. Mes imposants chiens de garde les tiennent encore à distance parce qu'elles sont encore peu nombreuses et assez gauches dans leurs déplacements. Comme je vous l'ai expliqué, leurs ailes ne leur sont pas d'une grande utilité lors des vols qu'elles effectuent sur de courtes distances. Je suis sur le point de déchiffrer les hiéroglyphes de la pierre. Le peu que j'ai déjà cru en comprendre est horrible. Et avec votre connaissance des légendes antiques, peut-être serez-vous en mesure de m'aider en comblant mes lacunes. Je suppose que vous connaissez tout au sujet des mythes effroyables antérieurs à l'avènement de l'homme sur Terre. Les cycles de Yog-Sothoth et de Cthulhu évoqués dans le Necronomicon. J'ai eu en une occasion un exemplaire de ce livre entre les mains, et me suis laissé dire que la bibliothèque de votre université en possédait un sous-clé. Pour conclure, monsieur Wilmart, je crois que nos champs de compétences respectives peuvent s'avérer complémentaires. Je ne veux pas vous faire courir le moindre danger, et crois de mon devoir de vous avertir qu'entrer en possession de cette pierre et de l'enregistrement n'est pas très sûr. Mais je crois également que pour vous, comme pour moi, la quête du savoir mérite tous les risques. J'irai en voiture jusqu'à Newfane ou Brattleboro pour vous envoyer ce que vous m'autoriserez à vous faire parvenir, car j'ai davantage confiance en la poste de ces villes. On peut dire que je vis presque en ermite, puisqu'il ne m'est désormais plus possible de garder du personnel chez moi. Les domestiques ne restent pas à cause des êtres qui, la nuit, essaient d'approcher la maison et font aboyer les chiens sans arrêt. Je me réjouis de n'avoir pas poussé plus avant mes recherches du vivant de ma femme. Tout cela l'aurait rendue folle. en espérant ne pas vous avoir trop dérangé et que vous accepterez de correspondre avec moi plutôt que de jeter cette lettre à la corbeille comme le délire d'un fou. Bien à vous, Henry W. Hackley. Post-scriptum. Je vais préparer des tirages supplémentaires de certaines photographies que j'ai prises et qui, je pense, aideront à prouver plusieurs points que j'ai évoqués. Les vieilles gens d'ici les trouvent monstrueusement exactes. Je pourrais vous les envoyer très vite si vous êtes intéressé. H.W.A. J'ai du mal à décrire ce que je ressentis à la première lecture de cet étrange document. En toute logique, devant de telles extravagances, j'aurais dû éclater d'un rire encore plus tonitruant que devant les théories beaucoup plus modérées qui avaient déjà provoqué mon hilarité. Mais quelque chose dans le ton de cette lettre me fit paradoxalement la prendre au sérieux. Non que je crusse un instant à l'existence de cette trace cryptique venue des étoiles dont parlait mon correspondant, mais parce que, après quelques sérieux doutes au début, j'en vins d'une manière curieuse à me persuader de sa santé mentale et de sa sincérité. Il avait dû être confronté à un véritable phénomène étrange et anormal qu'il n'était parvenu à expliquer que par cette débauche d'imagination. Il ne pouvait s'agir de ce qu'il croyait, pensais-je. Mais d'un autre côté, j'avais la certitude qu'une enquête approfondie s'imposait. Cet homme me paraissait trop troublé et trop inquiet pour que ce soit sans raison valable. Par certains côtés, il se montrait si précis, si logique, et puis après tout, son récit fantastique s'accordait si bien avec certains des anciens mythes, y compris les plus extravagantes des légendes indiennes. Qu'il ait vraiment entendu des voix inquiétantes dans les collines et trouvé la pierre noire dont il parlait, cela semblait tout à fait possible en dépit des conclusions inouïes qu'il en tirait. Des conclusions probablement suggérées par l'individu qui s'était prétendu un espion de ces êtres venus d'ailleurs et s'était tué par la suite. Il n'était pas difficile d'en déduire que cet homme-là devait avoir été un véritable démon, mais sans doute en gardant une apparence de logique distordue qui avait incité à le croire le naïf Hackley, habitué à ce genre d'histoire par ses études sur le folklore. Quant aux événements plus récents, il apparaissait que l'incapacité où se trouvait Hackley de garder du personnel à demeure révélait que ses voisins paysans étaient aussi convaincus que lui du siège nocturne de sa demeure par des créatures effrayantes. Et puis il y avait les aboiements bien réels de ses chiens. Sans parler de l'enregistrement pour phonographe, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il l'avait obtenu de la manière qu'il prétendait. Ce document devait bien signifier quelque chose, peut-être des cris d'animaux ressemblant trompeusement à un discours articulé, peut-être les paroles d'un pauvre hare, presque réduit à l'état de bête, qui se cachait là et errait dans la nuit. À ce stade de mes spéculations, mes pensées revinrent à la pierre noire gravée de hiéroglyphes, et je me demandais ce qu'il pouvait bien signifier. Et que devais-je penser des photographies qu'Hackley s'était dit prête à m'envoyer, celles que les vieilles gens du cru avaient trouvées si épouvantablement convaincantes? En relisant son écriture serrée, j'eus comme jamais auparavant l'impression que mes opposants crédules avaient eu plus d'arguments valables que je leur en avais concédé. Après tout, même s'il n'existait pas de monstres venus des étoiles comme les vieilles légendes l'affirmaient, ces collines maudites abritaient peut-être d'étranges parias, souffrant éventuellement de déformations congénitales. Si tel était le cas, la présence de cadavres bizarres dans les torrents en crue devenait envisageable. Était-il présomptueux de supposer un fond de réalité sous les contes antiques et les histoires récentes? Mais alors même que j'entretenais ces doutes, j'éprouvais une certaine honte à l'idée qu'ils aient été déclenchés par un document aussi fantasque et délirant que la lettre incroyable de Henry Hackley. Finalement, je répondis en adoptant un ton d'intérêt amical et en demandant davantage de détails. La deuxième lettre d'Hackley me parvint presque par retour du courrier. Conformément à sa promesse, elle contenait de nombreuses photographies de scènes et d'objets illustrant ses propos. En regardant les images que je venais de sortir de l'enveloppe, j'éprouvais un curieux sentiment d'effroi, comme si je me trouvais à proximité de choses interdites. Car même si la plupart d'entre elles étaient floues, elles possédaient un odieux pouvoir d'évocation, accentué par le fait qu'il s'agissait précisément de représentations optiques directes de ce qu'elles donnaient à voir, produites par un procédé impersonnel de transmission d'informations, dénué de tout préjugé, infaillible, sincère. Plus je les examinais, plus je comprenais que j'avais eu raison de prendre au sérieux Aclay et son récit. Ces documents prouvaient à l'évidence la présence de quelque chose dans les collines du Vermont qui, à tout le moins, dépassait largement le rayon de nos connaissances et croyances ordinaires. La pire de toutes ces photographies montrait une empreinte de patte éclairée par le soleil sur une portion de sol boueux au milieu d'un plateau désert. On ne pouvait soupçonner, je le vis au premier regard, une fraude grossière, car la netteté et la définition des cailloux et des brins d'herbe visibles sur l'image fournissaient une échelle sans équivoque et ne laissaient aucune possibilité de trucage par double exposition. J'ai appelé la chose « empreinte de patte », mais « empreinte de griffe » conviendrait mieux. Même aujourd'hui, j'ai du mal à la décrire. Je peux seulement dire qu'elle évoquait de façon effarante la forme d'un crabe et qu'on distinguait mal l'avant de l'arrière. La trace n'était ni récente ni très profonde, mais elle faisait environ la taille du pied d'un homme. Depuis une zone centrale, plate et relativement ronde, des paires de pinces en dents de scie partaient dans des directions opposées. On s'interrogeait sur leur fonction, à supposer que l'ensemble corresponde à un organe dédié à la seule locomotion. Une autre photographie, prise de toute évidence dans une profonde obscurité grâce à un temps de pause très long, montrait l'entrée d'une caverne en pleine forêt, bouchée par un rocher tout rond. Sur le sol nu, devant, on distinguait, à peine, un dense réseau d'empreintes étranges, et quand j'étudiais cette partie avec une loupe, j'acquis la certitude inconfortable qu'elles étaient similaires à celles apparaissant sur la première prise de vue. Une troisième encore donnait à voir un cercle de pierres levées, comme ceux des druides, au sommet d'une colline sauvage. Autour de ce cercle mystérieux, l'herbe semblait avoir été piétinée au point d'avoir disparu par endroits, mais, avec la loupe, je ne pus distinguer aucune empreinte. L'isolement extrême du lieu était manifeste quand on considérait le véritable océan de montagnes désertes qui s'étendait en arrière-plan jusqu'à un horizon brumeux. Si la plus inquiétante de toutes ces photographies restait celle de l'empreinte, la plus curieuse était celle de la grande pierre noire trouvée dans les bois de Mount Round. Aclay l'avait apparemment photographiée sur un meuble, sans doute son bureau. Je voyais derrière des rangées de livres et un buste de Milton. L'objet, pour autant que je puisse deviner, avait été pris de face en position verticale et présentait une surface gravée assez irrégulière d'une trentaine de centimètres sur plus de 50. Décrire précisément la surface ou la forme générale de cette pierre constituait presque un défi au langage. Je n'arrivais même pas à me figurer les principes géométriques inouïs qui avaient présidé à sa taille. Car on l'avait taillée, c'était certain. Jamais auparavant je n'avais vu quelque chose qui m'apparut de manière si criante, totalement étranger à notre monde. Je ne pouvais identifier quelques-uns des hiéroglyphes qui creusaient sa surface, mais un ou deux d'entre eux me donnèrent un choc réel. Bien sûr, ils pouvaient être apocryphes. D'autres avant moi avaient lu le monstrueux et détestable Necronomicon de l'arabe fou Abdul Al-Azred. Mais je n'en frissonnais pas moins à la vue de certains idéogrammes que mes recherches m'avaient appris à associer au terrible murmure à vous glacer le sang concernant des monstres ayant connu une semi-existence démente avant la naissance de la Terre et des autres planètes du système solaire. Parmi les cinq dernières photographies, trois montraient des paysages de marais et de collines, semblant porter les indices d'une occupation secrète et pernicieuse. Une autre montrait une marque étrange dans la terre, tout près de la maison d'Aclay. Il m'expliquait l'avoir prise le matin, après une nuit où les chiens avaient aboyé plus fort encore que de coutume. Il était impossible de tirer des conclusions définitives de cette image floue, mais elle ressemblait affreusement à l'empreinte de griffes sur le plateau désert. Sur la cinquième image, on voyait la demeure de mon correspondant, une maison blanche bien entretenue avec un étage et un grenier, et qui devait dater de plus d'un siècle. Au milieu d'une pelouse bien taillée, un chemin bordé de pierres menait à une porte d'entrée joliment sculptée de style géorgien. Sur le gazon, plusieurs énormes chiens de garde étaient assis près d'un homme au visage sympathique, pourvu d'une courte barbe grise, que je supposais être Aclay en personne. Si j'en jugeais par la poire reliée à un fil de sa main droite, il s'était photographié lui-même. Après les photographies, je m'intéressais à la lettre elle-même, un document volumineux couvert d'une écriture serrée. Les 3 heures qui suivirent me plongèrent dans un gouffre d'horreur indicible. Aclay, jusqu'alors, n'avait fait qu'esquisser la situation. Il la développait à présent dans les moindres détails, me fournissait de longues transcriptions des paroles entendues dans les bois la nuit, ainsi que des comptes rendus précis des formes rosâtres monstrueuses aperçues dans des bosquets sur des collines au crépuscule, et enfin un récit cosmologique terrible, et qu'il avait déduit de sa vaste et profonde érudition à partir des interminables discours du démon, le prétendu espion des créatures qui avait mis fin à ses jours. Je me vis face au nom et aux termes que j'avais pu entendre ailleurs dans les plus atroces contextes. Yugot, le grand Cthulhu, Tsatsogua, Yog-Sothoth, Rele, Nyarlathotep, Azathoth, Astur, Ilan Leng, le lac de Hali, Beth Moura, le cygne jaune, Lmur Catulos, Bran, et enfin Magnum Innominandum. Je fus entraîné dans des éons innommés et traversai d'inconcevables dimensions jusqu'à atteindre les univers d'entités étrangères et antiques, dont l'auteur fou du Necronomicon n'avait qu'à peine deviné l'existence. Il était question d'abysses de vie primale, de ruisseaux qui en dégoûtèrent autrefois, et d'un rude dérisoire issu de l'un de ces cours d'eau qui se retrouvait mêlé aux destinées de notre planète. Je sentais mon cerveau en plein tumulte. Alors qu'auparavant j'avais tenté d'expliquer les choses de manière rationnelle, je commençais à croire aux plus prodigieuses et perverses anomalies. L'ensemble des preuves était hélas immense, irrésistible, et l'attitude scientifique détachée d'Aclay à l'exact opposé de la démence, du fanatisme, de l'hystérie ou même de la spéculation extravagante, eut un effet prodigieux sur ma pensée et mes opinions. Quand je reposais cette effrayante lettre, j'avais compris les craintes qu'il nourrissait, et était prêt à faire tout mon possible pour maintenir les gens à l'écart de ces collines sauvages, hantées par d'abominables êtres. Même aujourd'hui, alors que le temps a émoussé cette impression et m'a amené à remettre plus ou moins en question l'expérience que j'ai vécue et les atroces doutes qui m'ont accablé, il demeure dans cette lettre d'Aclay des passages que je me refuse à citer, voire à paraphraser ici. Je me réjouis presque que ce document ait désormais disparu avec l'enregistrement sonore et les photographies, et pour des raisons que je ne tarderai pas à préciser, regrette qu'on ait découvert cette nouvelle planète au-delà de Neptune. Après cette lecture, mon engagement dans le débat public à propos des horreurs vues dans le Vermont cessa de manière définitive. Les arguments de mes contradicteurs demeurèrent sans réponse, abandonnés après de fallacieuses promesses de ma part et, finalement, la controverse sombra dans l'oubli. Depuis la fin mai et durant tout le mois de juin, Aclay et moi entretînmes une correspondance suivie. De temps à autre, une lettre se perdait, de sorte que nous devions revenir sur nos pas et effectuer de considérables et laborieuses copies de nos écrits. D'une manière générale, nous nous efforcions de comparer nos notes concernant d'obscurs points de mythologie, afin de parvenir à dégager une corrélation plus claire entre les êtres du Vermont et le corpus des légendes du monde primitif. Avant tout, nous étions parvenus à la conclusion provisoire que ces abominables créatures et le cauchemardesque Migo de l'Himalaya appartenaient à la même espèce d'atrocité incarnée. Des conjectures zoologiques nous absorbaient également. Je les aurais bien exposés au professeur Dexter qui exerçait dans la même université que moi, si Ackley ne m'avait formellement interdit de parler à quiconque des recherches qui nous occupaient. Si je donne à présent l'impression de désobéir à cet ordre, c'est seulement parce que je pense que, au point où en sont venues les choses, dans l'intérêt de la sécurité publique, il vaut mieux mettre en garde les gens contre ces collines reculées du Vermont, contre ces pics himalayens que de hardis explorateurs paraissent de plus en plus déterminés à gravir, plutôt que de continuer à me taire. En particulier, nous nous étions donné pour tâche de déchiffrer les hiéroglyphes de cette maudite pierre noire. Le résultat, pensions-nous, pourrait très bien nous mettre en possession de secrets plus profonds et bouleversants que tous ceux révélés jusqu'à présent à l'humanité. 3. Vers la fin juin, je reçus l'enregistrement sonore, expédié depuis la poste de Brattleboro, puisque Ackley n'avait plus confiance dans la ligne ferroviaire du Nord qui acheminait le courrier depuis son village. Il se sentait de plus en plus surveillé, et surtout depuis la perte de certaines de nos lettres, et se montrait intarissable sur les faits et gestes suspects d'individus qu'il pensait des outils et des agents à la solde des monstres tapis dans l'ombre. Il soupçonnait surtout le fermier grincheux Walter Brown. L'homme habitait seul une maison décrépite à flanc de colline, proche de bois profonds, et on le voyait souvent traîner sans raison apparente à Brattleboro, Bellows Falls, Newfane ou au sud de Londonderry. Ackley avait la conviction que la voix de Brown était l'une de celles qu'il avait entendues, à une certaine occasion, participer à une conversation des plus effroyables. En outre, il avait repéré non loin de la maison du fermier une de ces empreintes de griffes qui ne laissaient rien présager de bon, car elle était située tout près d'autres empreintes laissées par Brown face à elle. L'enregistrement fut donc expédié de Brattleboro où Ackley se rendit dans sa Ford en empruntant les routes rustiques et désertes du Vermont. Dans la note accompagnant son colis, il m'avoua qu'il commençait à avoir peur de ses chemins. Il ne se risquait désormais qu'en plein jour, même pour aller faire ses courses à Townshend. « Cela ne valait rien d'en savoir trop, » répétait-il sans trêve, à moins de demeurer très loin de ces inquiétantes et silencieuses collines. Il ne tarderait pas à partir en Californie vivre chez son fils, même s'il lui était difficile de quitter un endroit où se concentraient tous ses souvenirs et la mémoire de ses ancêtres. Avant d'écouter ce document sonore sur la machine que j'avais empruntée au service administratif de l'université, je relus avec attention toutes les explications fournies par Ackley dans ses lettres. Il disait avoir effectué l'enregistrement vers 1 heure dans la nuit du 1er mai 1915, non loin de l'entrée bouchée d'une caverne située près du marais Lee, là où s'élève la face boisée ouest du Mont Noir. Les voix mystérieuses semblaient avoir toujours anormalement abondé à cet endroit, et il y avait apporté le phonographe, le dictaphone et la cire vierge dans l'espoir d'obtenir des résultats concrets. Son expérience lui disait que, la veille du 1er mai, cette hideuse nuit de sabbat des légendes occultes européennes se montrerait sans doute plus fructueuse que toute autre date, et il n'avait pas été déçu. Il faut toutefois souligner que plus jamais par la suite il ne surprit de voix en ce lieu particulier. Contrairement à la plupart des conversations qu'il avait entendues dans la forêt, celle gravée dans la cire ressemblait à un rituel. Elle comprenait une voix clairement humaine qu'Ackley n'avait jamais pu identifier. Elle n'appartenait pas à Brown, mais à un homme cultivé. La seconde voix, toutefois, constituait tout l'intérêt de l'enregistrement, car il s'agissait de ce bourdonnement démoniaque, dénué de tout caractère humain, même s'il articulait des mots en bon anglais et dans un accent parfait. Le résultat, d'un point de vue technique, se révélait inégal. L'enregistrement avait pâti à la fois de l'éloignement et du fait que le rituel était prononcé à voix basse. En fin de compte, le discours identifiable restait très fragmentaire. Ackley m'avait adressé une transcription de ce qu'il pensait avoir été dit, et j'y jetai un coup d'œil avant de lancer la machine. Le texte se révélait sombrement mystérieux, plutôt que vraiment effroyable. Même si la connaissance de son origine et des conditions de son obtention lui conférait une horreur qu'aucune des phrases n'aurait suscitée à elle toute seule. Je vais le reproduire de la manière la plus complète dont je me souvienne, et je suis à peu près sûr de le savoir par cœur. Non seulement j'en ai lu la transcription, mais j'ai fait passer à d'innombrables reprises le rouleau de cire sous l'aiguille du phonographe. Il ne s'agit pas d'une chose qu'on oublie facilement. Son impossible à définir. Voix d'homme cultivé.
Et le seigneur du vide, même jusqu'à, et les dons des hommes de lingue, ainsi des puits de la nuit au gouffre de l'espace, et des gouffres de l'espace au puits de la nuit qu'on glorifie à jamais le grand Cthulhu, Tsatogua, et celui qu'on ne doit pas nommer. À jamais qu'on les loue, et que la chèvre noire des forêts soit féconde. Ya, Shub-Niggurath, la chèvre aux mille chevreaux.
Bourdonnement imitant la voix humaine.
Ya, Shub-Niggurath, la chèvre noire des forêts aux mille chevreaux.
Voix humaine.
Et il advint que le seigneur des forêts étant 7 et 9 au bas des marches d'Onyx, offrande à celui dans le gouffre, à Azathoth, celui dont tu nous as enseigné les merveilles. Sur les ailes de la nuit, au-delà de l'espace, au-delà du... à cela dont Yugot est le dernier rejeton, roulant seul dans le noir éther au bord de...
Bourdonnement.
Va parmi les hommes et découvre leurs coutumes, pour que celui dans le gouffre puisse les connaître. À Nyarlathotep, puissant messager, toutes choses doivent être révélées. Et il prendra apparence humaine grâce au masque de cire et au tissu qui dissimule, et il viendra du monde des 7 soleils pour tromper. Nyarlathotep, un grand messager, toi qui apportes d'étranges joies à Yugot à travers le vide, père du million de privilégiés, toi qui hantes les...
Discours interrompu par la fin de l'enregistrement. Telles étaient les paroles auxquelles je devais m'attendre en démarrant l'instrument. Ce ne fut pas sans une pointe de réel effroi et de réticence que j'appuyai sur le levier et entendis le grattement préliminaire de la pointe du saphir. Je me réjouis que les premiers mots, faibles et incomplets, fussent prononcés par une voix humaine veloutée, celle d'un homme cultivé dont l'accent évoquait la région de Boston, et certainement pas celle d'un natif des collines du Vermont. En écoutant ce discours, si faiblement audible, il me semblait bien reconnaître la transcription appliquée d'Aclay. Oui, cette personne de la haute société bostonienne psalmodiait.
Ya, Shub-Niggurath. La chèvre aux mille chevreaux.
Et puis, ce fut le tour de l'autre voix. Encore aujourd'hui, je frémis quand je me rappelle à quel point elle me frappa, bien que les comptes rendus d'Aclay m'y aient préparé. Ceux à qui, depuis, j'ai décrit l'enregistrement, affirment n'y décerner rien d'autre que grossière mystification ou démence. Mais s'ils avaient entendu eux-mêmes ce discours maudit, ou bien lu l'ensemble de la correspondance d'Aclay, surtout la seconde lettre, si terrible, si exhaustive. Je sais qu'il penserait autrement. En fin de compte, c'est désastreux que je n'ai pas désobéi à mon correspondant et fait écouter ce document sonore à d'autres, et aussi désastreux que toutes les lettres aient disparu. Pour moi, cette voix ainsi entendue en direct, avec la connaissance du contexte dont je disposais, me parut proprement monstrueuse. Elle répondait dans le rituel à la voix humaine sans temps mort, mais dans mon imagination, c'était un écho morbide, se frayant un chemin par d'inimaginables abysses depuis d'inimaginables enfers lointains. Voilà plus de 2 ans que j'ai fait jouer ce blasphématoire cylindre de cire, et en ce moment même, comme à chaque instant, j'ai dans l'oreille ce faible bourdonnement malfaisant, tel que je le perçus la première fois.
Ya, Shub-Niggurath, la chèvre des forêts aux mille chevreaux.
Cette voix n'a jamais quitté mon esprit, et pourtant je suis toujours incapable de l'analyser assez précisément pour en faire une description convaincante. On aurait cru le bourdonnement de quelque abominable et gigantesque insecte, laborieusement modulé pour articuler le discours d'une espèce étrangère. J'ai la ferme certitude que les organes la produisant ne peuvent en rien ressembler au système de vocalisation d'un homme, ni même à ceux d'aucun mammifère. Elle comportait des particularités de timbre, de fréquence et d'harmonique qui plaçaient le phénomène tout entier en dehors de la sphère humaine, voire terrestre. Cette première fois, sa présence soudaine m'ahurit, et c'est dans une sorte d'engourdissement que j'écoutais le reste de l'enregistrement. Quand le bourdonnement reprit, plus longuement cette fois, le sentiment d'un sacrilège infini qui m'avait saisi à la première audition de cette voix s'empara de moi avec une intensité accrue. L'audition s'acheva de manière abrupte, au beau milieu d'un fragment très clair, pour une fois, de la voix humaine, celle de Boston. Mais longtemps après que la machine se fût arrêtée d'elle-même, je restai immobile, le regard dans le vide. Inutile de dire que j'écoutais maintes et maintes fois ce document bouleversant, dont j'effectuais une analyse approfondie et comparais mes notes avec celles d'Aclay. Il serait vain et perturbant de répéter ici l'ensemble des conclusions auxquelles nous parvînmes, mais je peux au moins dire que nous nous accordâmes pour estimer que nous avions découvert là l'origine des rites primitifs les plus prégnants des antiques religions occultes de l'humanité. Il nous paraissait également clair qu'il existait une alliance immémoriale, complexe, entre ces mystérieuses créatures venues d'ailleurs et certains membres de l'espèce humaine. Jusqu'où s'étendait cette alliance et quelle évolution elle avait connue entre la période actuelle et l'époque des premiers âges, nous n'avions aucun moyen de le savoir. Au mieux, nous ne pouvions que nous livrer à quantité de spéculations horrifiées. Il semblait bien que nous puissions distinguer plusieurs étapes d'un atroce lien datant de l'Antiquité entre l'homme et une infinité sans nom. Ces créatures impies qui foulaient la Terre semblaient venir de l'obscure planète Yugot, aux confins du système solaire. Elle-même, un simple avant-poste très peuplé d'une effroyable race interstellaire, dont il fallait rechercher l'origine au-delà même du continuum espace-temps d'Einstein, ou de la totalité du cosmos connu. En parallèle, nous nous penchions sur la pierre noire et cherchions le meilleur moyen de la faire parvenir à Arkham. Aclay pensait mal avisé que je vienne lui rendre visite sur la scène même de ses recherches cauchemardesques. Pour une raison peu claire, il n'avait plus confiance dans les voies de transport habituelles et craignait de les utiliser pour cet envoi. En fin de compte, même s'il devrait pour cela emprunter des routes de montagne encore plus reculées et forestières que la voie principale menant à Brattleboro, il décida de la porter lui-même à travers la campagne jusqu'à Bellows Falls, où il la confierait au transport ferroviaire Boston and Maine via Keene, Winchendon et Fitchburg. Il m'apprit qu'il avait remarqué non loin de la poste de Brattleboro, quand il avait envoyé l'enregistrement, un individu dont les actions et les mimiques lui avaient paru rien moins que rassurantes. L'homme avait semblé bien empressé de discuter avec les employés, et il était monté dans le train même où avait voyagé le précieux colis. Aclay m'avoua qu'il s'était inquiété à propos du document jusqu'au moment où je lui avais confirmé l'avoir bien reçu. C'est durant cette période, la deuxième semaine de juillet, qu'une autre de mes lettres s'égara ainsi que me l'apprit un mot soucieux de mon correspondant. À la suite de cet incident, Aclay me donna pour instruction de ne plus lui écrire à Townshend, mais exclusivement poste restant à Brattleboro, où il se rendait souvent soit avec sa voiture, soit en empruntant la ligne de bus qui dernièrement avait remplacé le tortillard qui servait au transport des passagers. Je voyais bien qu'il était de plus en plus anxieux. Il insistait beaucoup sur les aboiements de ses chiens qui s'intensifiaient lors des nuits sans lune, et sur les empreintes de griffes que, le matin, il découvrait sur la route ou dans la boue derrière sa maison. Il me parla même une fois d'une véritable troupe de ses traces formant une ligne face à une masse tout aussi nette et résolue d'empreintes canines, et m'envoya une photographie hideusement perturbante pour me prouver ses dires. Il avait découvert ces marques après une nuit où ses chiens s'étaient surpassés en aboiements et en hurlements. Tôt le mercredi 18 juillet, je reçus un télégramme en provenance de Bellows Falls, dans lequel Hackley m'annonçait avoir expédié la pierre noire par le train numéro 5508 de la compagnie Boston and Main, lequel avait quitté la localité à 12h15, temps légal, et devait arriver à la gare du nord de Boston à 16h12. Selon mes calculs, elle me parviendrait à Arkham le lendemain vers midi, et je restais donc chez moi tout le jeudi matin pour la réceptionner. Mais midi vint et passa sans que je reçoive rien. Quand je téléphonais au bureau de poste, on m'informa qu'aucun colis n'était arrivé pour moi. Avec un sentiment d'inquiétude croissante, je m'employai alors à passer un appel longue distance à l'agent chargé du courrier express à la gare du nord de Boston. Je ne fus guère surpris d'apprendre que mon paquet n'y avait pas fait son apparition. Le train numéro 5508 était bien arrivé la veille, avec seulement 35 minutes de retard, mais il ne transportait rien à mon adresse. Toutefois, le responsable me promit de mener une enquête. Je terminai la journée en envoyant à Hackley par le courrier de nuit une lettre expliquant la situation. Un rapport de Boston me fut délivré avec une louable célérité le lendemain après-midi. L'agent me joignit par téléphone dès qu'on l'eut informé. L'employé de la compagnie de chemin de fer en charge du train 5508 s'était apparemment souvenu d'un incident sans aucun doute en rapport avec mon affaire. Il avait eu une discussion avec un homme à la voix très étrange, qui se tenait voûté, avait les cheveux blonds clairs et l'air d'un paysan, au moment où le train attendait à la gare de Keene, dans le New Hampshire. Un peu après 13h, temps légal. Cet homme, avait-il déclaré, semblait très agité à propos d'un gros colis qu'il prétendait attendre, mais qui n'était ni dans le train, ni dans les registres. Il avait donné le nom de Stanley Adams et parlait d'une voix lourde, étrangement bourdonnante, qui avait anormalement étourdi son interlocuteur au point de le rendre somnolent. L'employé ne se rappelait pas bien de la fin de la conversation, mais il se souvenait qu'il avait soudain retrouvé toute sa lucidité quand le train avait commencé à quitter la gare. L'agent de Boston se portait garant de son subordonné, un jeune homme d'une probité et d'une efficacité jamais mis en défaut, dont on connaissait les antécédents puisqu'il travaillait depuis longtemps pour la compagnie. Ce soir-là, je me rendis à Boston pour m'entretenir directement avec l'employé. J'avais obtenu son nom et son adresse par son chef. Il s'agissait d'un personnage franc et sympathique, mais je compris vite qu'il n'avait rien à ajouter à son rapport d'origine. Bizarrement, il n'était pas très sûr de pouvoir même reconnaître, le cas échéant, son étrange solliciteur. Voyant que je n'obtiendrais pas d'autres détails, je retournai à Arkham et passai la nuit à écrire à Hackley, à la compagnie de transport express, à la police et au chef de gare à Keene. J'avais l'impression que l'homme à la voix insolite qui avait affecté l'employé d'une manière si étonnante devait jouer un rôle de premier plan dans cet incident inquiétant, et j'espérais qu'à Keene, quelqu'un du bureau de chemin de fer ou des registres du télégraphe pourrait fournir des renseignements au sujet de l'homme et de sa requête, à savoir quand et où il l'avait faite. Je dois toutefois reconnaître que mes efforts ne débouchèrent sur rien. On avait effectivement remarqué dans les parages de la gare de Keene cet homme à la voix bizarre au début de l'après-midi du 18 juillet, et un des badauds présents croyait se souvenir qu'il portait un lourd paquet. Mais il s'agissait par ailleurs d'un parfait inconnu, que personne n'avait vu avant, ni revit par la suite. Pour autant qu'on puisse savoir, il ne s'était pas rendu au bureau du télégraphe, ni n'avait reçu de message. Du reste, aucun document attestant officiellement la présence de la pierre noire dans le train numéro 5508 n'était parvenu à personne dans ce bureau. Bien sûr, Hackley m'aida dans ses investigations et se déplaça même jusqu'à Keene pour interroger les personnes qu'il rencontra dans les parages de la gare. Mais il fit montre dans cette affaire d'une attitude plus fataliste que la mienne. Il paraissait considérer la perte de ce colis comme l'accomplissement menaçant et de mauvais augure de quelque chose d'inéluctable, et n'eut jamais en réalité aucun espoir de le récupérer un jour. Il évoqua les indiscutables pouvoirs télépathiques et hypnotiques des créatures des collines et de leurs espions, et indiqua dans une de ses lettres qu'à son avis, la pierre avait déjà quitté notre planète. De mon côté, j'étais fort indigné, car j'avais eu le sentiment qu'avec cet objet, nous tenions au moins une chance d'obtenir des connaissances étonnantes, importantes à partir des antiques hiéroglyphes à moitié effacés. J'aurais longtemps remâché avec amertume cet échec, si les lettres que m'envoya Aclay par la suite m'avaient marqué une nouvelle phase dans les atroces événements se déroulant dans les collines et accaparé sur le champ toute mon attention.